Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de Radio Alliance Plus. Bienvenue pour notre émission. Aujourd'hui, et pour faire suite à la fête de la Réformation, je vous invite à faire connaissance ou à redécouvrir plutôt les protestants, luthériens et réformés, et grâce à une brochure intitulée « Les églises luthériennes et réformées » qui a été créée par la Fédération protestante de France dans le cadre de « Découvrir le protestantisme aujourd'hui ». Cette brochure a été diffusée depuis le mois de juillet 2024. Vous pouvez donc la trouver dans les paroisses ou à la Maison du protestantisme de Nîmes. Vous pouvez aussi la commander tout simplement à la Fédération protestante de France, 47 rue de Clichy à Paris 9e, ou allez sur le site www.protestant.org. Depuis 5 siècles, les églises luthériennes et réformées développent une manière originale de comprendre la foi et la vie chrétienne fondée sur l'amour inconditionnel de Dieu, la liberté spirituelle, la responsabilité personnelle. Alors dans ce tome, partez à la découverte ou à la redécouverte de ces églises, membres de la Fédération protestante de France. C'est ce qui est inscrit dans la quatrième de couverture de cette brochure. Et je vous invite à écouter également une partie de la préface qui a été écrite par Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, qui nous dit que cette présente brochure s'inscrit dans la suite de celle dédiée aux églises évangéliques de la Fédération protestante de France, et elle nous présente aujourd'hui les églises luthériennes et réformées. Ces dernières apparaissent dès les réformes du XVIe siècle, portées par des meneurs dont le caractère inspirant et influent est reconnu et demeure jusqu'à nos jours. Alors si les principes théologiques majeurs, la culture ecclésiale et liturgique, ne semblent guère avoir connu de profonds changements depuis le temps de la réforme, ces églises, par contre, sont en constante évolution. Elles cherchent inlassablement à penser leur présence au cœur de la cité et auprès des femmes et des hommes de leur temps. Elles honorent ainsi ce principe qui leur est cher de se réformer sans cesse. C'est dans un dialogue critique avec la culture contemporaine que les églises luthériennes et réformées cherchent à vivre leur fidélité à l'Écriture. Cette parole à interpréter, à laquelle elles prêtent toute autorité, en matière de foi et de vie d'Église. Ces églises, présentes dès la création de la FPF, s'inscrivent dans leur projet fédératif. L'enrichissement de leur profonde authenticité spirituelle, de leurs ressources humaines et théologiques, et d'une exigence de pensée théologique toujours en débat. Voilà ce que nous dit Christian Krieger dans une partie de la préface de cette brochure, les églises luthériennes et réformées. Ont participé à la conception de cet ouvrage, en plus de Christian Krieger, bien sûr, Gaëtan Land, Anne-Laure Danet, Juliette Angeletti, Bettina Schaller, Laurent Schlumberger. Et il y a à l'intérieur de cette brochure de nombreux témoignages, tels que celui de Frère Aloïs, Marc Boss, Jean-Marie de Bourquenay, Jean-Luc Mouton, Esther Duflo, Irène Frachon, Jean-Sébastien Ingrand, Henri Masson, Jean-Marc Potenti. Alors, si vous voulez en savoir plus, il faut aller découvrir, bien sûr, cette brochure vous-même, aller la lire. Mais en attendant que vous la trouviez, et pour en savoir plus sur cette brochure, je vous invite à écouter une partie d'une émission de la Fédération protestante de France sur les églises protestantes luthériennes et réformées, émission qui a été conçue par Benjamin Bory et qui a été diffusée en septembre 2024 dans le cadre des actualités protestantes de la Fédération protestante de France. Je vous invite à écouter Benjamin Bory dans une interview consacrée à Emmanuel Sebol. Emmanuel Sebol va donc répondre aux questions de Benjamin Bory au sujet de cette brochure et au sujet de sa place dans, parmi les protestants luthériens et réformés. Mais en attendant d'écouter cette émission, je vous invite à écouter un chant qui s'intitule « Magnifique est le Seigneur ». C'est un chant que Emmanuel Sebol affectionne particulièrement. Je vous invite à l'écouter maintenant.
À l'occasion de la sortie du livret de la FPF sur les églises luthériennes et réformées, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Sebolt, présidente et pasteur de l'Église protestante unie de France. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Benjamin.
Alors, si vous deviez présenter le protestantisme luthérien et réformé à une personne qui n'y connaît rien, ça donnerait quoi ?
Ça donnerait « waouh ! » Et après, ça donnerait… Alors, les protestants luthériens et réformés sont des chrétiens… qui ont reçu de Dieu la conviction de cet amour qui est donné, premier, et qui vivent l'amour de Dieu dans une grande liberté et en même temps une très grande responsabilité vis-à-vis du monde.
Ça donne envie en tout cas, je trouve.
Ah bah super.
Alors en France, il existe deux unions d'églises représentant la quasi-totalité des luthéraux réformés. Ces deux unions intègrent déjà en leur sein cette mixité luthérienne et réformée. Est-ce que c'est un cas particulier dans le monde ?
Alors non, c'est pas un cas particulier. Depuis 1973, il y a eu un grand accord qui s'appelle la Concorde de Leuenberg. Leuenberg, c'est un petit village à côté de Bâle, petite ville, je ne sais pas. Et en 1973, les luthériens et les réformés ont signé une concorde. Et donc, à partir de là, pouvaient se créer des églises unies. Parce que cette concorde permettait de reconnaître les torts réciproques, de lever les condamnations qu'on s'était jetées à la figure pendant quelques siècles.
Donc, ça veut dire que… Il y a eu des questions et des tensions aussi dans le passé et l'histoire.
C'est ça. Il y a eu des tensions, en fait, au moment de la réforme protestante. D'un côté, Luther et les églises qui sont issues de la réforme de Luther. Mmh. Calvin qui a pris de Luther, mais qui a développé des églises un peu d'une autre manière que Luther.
Donc lui, c'est réformé.
C'est réformé. À la suite de Calvin, c'est les réformés. Et puis, d'autres mouvements qui sont issus de la réforme protestante et entre lesquels il y avait des différentes manières de voir comment on célèbre la Sainte Cène, comment on célèbre le déroulement du culte, comment on organise l'Église, comment les pasteurs sont organisés par rapport aux membres de l'Église, etc. Et voilà. Et donc, toutes ces petites nuances qui parfois étaient des gros désaccords ont conduit au fur et à mesure des décennies les églises luthériennes et les églises calvinistes à être en désaccord profond de plus en plus les unes avec les autres. Et donc, il fallait réparer ça. Et ça a été fait en 1973 grâce à cette concorde. Et depuis, un certain nombre d'églises luthériennes et réformées se sont donc unies. Je ne sais pas si nous sommes les derniers, l'Église protestante unie, mais donc en 2013, l'Église réformée de France et l'Église évangélique luthérienne de France se sont unies.
Alors, deuxième particularité des protestants réformés et luthériens, c'est ce goût affirmé et délibéré pour la diversité. Comment est-ce que ça se vit, cette valeur, dans vos églises ?
Alors, ça se vit au quotidien. Ça se vit au quotidien parce qu'il n'y a pas une parole d'autorité sur la manière de lire la Bible. Mmh. Le pasteur ne va pas, ne doit pas, et j'espère qu'il ne le fait pas, dire aux membres de l'église, voilà ce texte biblique, voilà comment vous devez le comprendre. Or, la lecture des textes bibliques invite à pratiquement un foisonnement d'interprétations, de lectures diverses. Ça peut être existentiel, ça peut être historique, ça peut être... Enfin, il y a tout un tas de niveaux de lecture du texte. Mais aussi, même si on lit le texte de manière existentielle, on peut le lire de différentes manières. Mmh. Et il n'y a pas une manière que l'Église ordonnerait de lire dans ce sens-là. Et donc, des membres de l'Église vont interpréter les textes de telle manière et d'autres de telle autre manière, et d'autres encore d'une troisième manière. Et cette liberté de lire la Bible, d'interpréter, nous voulons que ce soit, ça fasse partie de notre ADN d'Église, cette pluralité, à notre avis, est une chance et je dirais même un fruit de la bénédiction de Dieu, en fait, qui invite l'être humain à être libre et à discerner son propre chemin de vie en ayant reçu, comme je disais tout à l'heure, au départ, comme cadeau de départ, cette bénédiction, cet amour que Dieu donne. Et donc, dans l'Église protestante unie, dans l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, on vit au quotidien la diversité d'interprétation des textes. Et c'est à la fois une très grande richesse et un grand défi.
Et ça se repose aussi sur un point théologique, c'est cette croyance dans le fait qu'on ne peut jamais totalement saisir ce que Dieu veut ou ce que Dieu est.
Alors, absolument, on est loin de pouvoir saisir. Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, chacun ne peut éventuellement que recevoir dans sa vie quelque chose, mais qui n'est qu'une infime parcelle, et encore, je ne sais pas si on peut dire parcelle, de temps en temps, des éclairs, des illuminations, de quelque chose qui perçoit dans sa vie, de manière existentielle, là encore, de ce qu'est Dieu, mais qui n'est qu'une infime partie de ce que Dieu peut, ou de la manière dont Dieu peut se faire connaître, tout à fait.
Alors, cette diversité, elle est très très belle, mais je suppose que ça crée aussi des enjeux pour bien fonctionner ensemble, pour être raccord. Comment ça se vit, ça se gère au quotidien ?
Alors, je pense que d'abord, il faut s'ancrer dans les évangiles, évidemment, dans la lecture biblique, de manière tout à fait sérieuse. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure, il y a de nombreuses explications, de nombreuses manières de lire le texte biblique, mais toutes ne sont pas légitimes. Et donc, par le travail, on peut aussi dire, voilà, certaines personnes lisent ça dans ce texte, or, ça n'y est pas. C'est-à-dire que quand on lit un texte biblique, parfois, de soi-même, on rajoute d'autres choses. On associe des choses qui ne sont pas dans le texte, tout simplement. Et donc, ensemble, c'est important de se mettre autour de la table et de dire, soyons sérieux avec le texte biblique, c'est-à-dire osons vraiment le travailler de manière sérieuse et l'interroger de manière sérieuse. Et donc d'écarter, et on écarte certaines lectures qui ne sont pas légitimes. Et puis il y a un critère de lecture du texte biblique, c'est la personne du Christ. Il y a des textes dans la Bible qui sont écrits à des époques différentes, dans des contextes qui sont très très différents les uns des autres, et qui sont contradictoires. Si on prend certains textes de l'Ancien Testament, après le retour d'exil, eh bien, certains textes disent qu'il faut chasser tous les étrangers de Jérusalem, et d'autres qui disent qu'il faut accepter les mariages avec les femmes étrangères. Mmh. Il y a des textes différents, selon, et même quand on parle d'une même époque. Voilà, donc on ne peut pas dire, ben, oui, mais là, le texte dit ça. Alors oui, il dit ça, mais quel va être le critère qui va permettre de dépasser un certain nombre de contradictions dans le texte. Et ce critère, c'est la personne de Jésus-Christ, mort et ressuscité, et ce qu'il nous appelle à vivre. Donc, la lecture du texte biblique va passer par, j'allais dire, une soumission dans le sens positif et chrétien, la soumission au regard du Christ et à la vie du Christ, mort et ressuscité.
Et avec un apport aussi conséquent de la théologie et même une approche scientifique des textes. Là, vous avez parlé de contexte tout à l'heure. Je pense que c'est une approche qui plaît beaucoup en milieu luthéro-réformé dans les études de théologie.
Ça, c'est le troisième pied, je dirais, la manière de lire les textes. C'est d'accueillir et de reconnaître et de... Alors, on ne peut pas tout tenir, bien sûr, mais à la fois les lectures théologiques qui nous ont précédés et dans lesquelles nous nous ancrons, et en même temps, les nouveaux savoirs que nous découvrons ou que nous accumulons au cours des siècles. Et cette prise en compte des savoirs est aussi essentielle, et là, je dirais que le rôle du pasteur, du théologien dans la communauté, dans la paroisse, dans l'église locale, est essentiel pour apporter aussi aux membres d'église les nouvelles connaissances, ce qu'on découvre sur les textes bibliques, sur les contextes dans lesquels les textes ont été écrits, etc. Donc, à la fois liberté, héritage et prise en compte des savoirs actuels.
Alors la diversité, j'y reviens un petit peu, vous la vivez aussi dans la Fédération protestante de France, qui est composée, on peut dire grossièrement, de 2/3 de protestants luthériens et réformés et 1/3 de protestants évangéliques. En quoi ça vous nourrit de vivre cette vie dans la diversité protestante?
Alors cette diversité, elle est... peut-être aussi quotidienne au niveau des églises locales. C'est-à-dire que les paroisses de l'Église protestante unie sont en lien avec des églises évangéliques autour d'elles. Donc c'est important d'avoir un lieu où on peut croiser les regards, où on peut entendre comment l'autre formule sa foi et que l'autre puisse entendre notre manière de formuler notre foi. Donc c'est un lieu très important pour une meilleure connaissance mutuelle les uns des autres et puis pour aller plus loin dans la compréhension, parce que finalement quand les uns expriment leur foi d'une manière et puis les autres d'une autre, il peut y avoir du jugement ou
des a priori
ou des incompréhensions. Et finalement, quand on prend le temps de cheminer en confiance, comme on le fait au sein du Conseil de la Fédération, par exemple, mais comme on peut le faire aussi entre églises au niveau local, eh bien, tout à coup, on se découvre que certaines formulations sont héritées de l'histoire. Et donc, moi, je vais formuler les choses d'une manière que l'autre ne va pas comprendre, mais si je lui explique d'où vient cette manière de dire, alors... Tout à coup, mon interlocuteur se rend compte que finalement, nous disons la même chose, nous pouvons exprimer la même chose, mais dans des termes différents. Et ce cheminement-là, il est extrêmement réjouissant.
Il y a aussi ce petit ingrédient de la rencontre personnelle qui peut changer peut-être les choses.
Alors, ça change toujours les choses. Ça change toujours, en fait. Parce que finalement, quand on se découvre en tant que personne, d'abord... que l'on vit des choses ensemble, que l'on a des projets, eh bien, on apprécie l'autre en tant qu'être humain, en tant que, voilà, personne, avec toutes ses richesses et tout ce qui fait d'elle qui elle est. Mmh. Et finalement, le vocabulaire théologique devient quelque chose de second. Voilà, et c'est vraiment un enrichissement.
Alors, un autre marqueur de l'identité luthéro-réformée, donc, qui appartiennent à cette grande famille du protestantisme, c'est un gros mot, le sacerdoce universel. Alors, vous le traduisez autrement dans ce livret « Les églises luthériennes et réformées » en disant « la formation théologique pour toutes et tous ». Qu'est-ce que c'est ?
Alors, ça s'ancre dans une des convictions vraiment profondes de Martin Luther, qui était de mettre la Bible dans toutes les mains. Il n'y a pas d'un côté des clercs qui lisent, les clercs du clergé, qui lisent la Bible et qui expliquent aux gens ce qu'ils doivent comprendre de la Bible, mais chacun, chacune peut avoir la Bible en main et la lire lui-même. Mais on a dit tout à l'heure que quand on lit la Bible, ça présente des difficultés, des grandes, parce qu'il y a des textes qui sont difficiles à comprendre, parce qu'il y a des textes qui vont pas l'un avec l'autre, etc., etc. Et donc, pour lire la Bible, il faut s'équiper et il faut accepter de rentrer dans cette formation théologique que chaque membre d'église doit être en mesure de faire. Alors, il est bien sûr, les personnes sont accompagnées pour le faire, on propose des groupes de lecture biblique, etc., etc. Mais voilà, le sacerdoce universel, c'est que chacun, chacune est responsable dans sa lecture de la Bible et ensuite dans l'engagement qui va être le sien dans la société, parce que on lit la Bible, bien sûr, parce que c'est la trace du cadeau de l'amour de Dieu dans la vie des humains. Et donc, dans la Bible, on y lit en priorité ces traces-là. Mais ensuite, on la lit pas seulement pour soi-même, pour être, conforté ou pour être encouragé par cet amour, c'est essentiel. Mais on lit la Bible aussi pour y trouver comment chacun et chacune va s'engager dans la société, quelle est sa mission. Les uns, bien sûr, peuvent être pasteurs, d'autres peuvent être théologiens, d'autres peuvent, Luther disait, le cordonnier, voilà, il fait bien son travail de cordonnier parce qu'il le fait de manière chrétienne. Je dis de façon simple, mais voilà. Pour Luther, chaque métier exercé par un chrétien est une vocation propre. Donc, on n'est pas tous appelés à être pasteur, mais on est tous appelés à lire la Bible et à s'engager dans la société.
Et donc, si on est pasteur, on ne gagne pas des points supplémentaires auprès de Dieu et on n'est pas plus proche de Dieu.
Non, 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 non.
Et ça peut surprendre dans notre vision du religieux.
Ouais. Non, non, il n'y a pas... En fait, personne n'est plus près de Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'approche de chacun.
Ah voilà, le problème est résolu.
Ce n'est pas nous qui nous approchons de lui.
Alors, un autre marqueur des luthéraux réformés, c'est un engagement très fort, très ancré dans les œuvres sociales. Et je vais citer Esther Duflo, prix Nobel d'économie en 2019, protestante donc issue de la famille luthéro-réformée, qui dit en page 32 du livret que vous pouvez télécharger ou commander auprès de la FPF, « La chance considérable que j'ai eue de naître où et quand je suis né me donne une responsabilité tout aussi considérable. Il m'appartient de rembourser cette dette immense en faisant quelque chose à ma mesure pour améliorer la vie de ceux qui n'ont pas eu cette chance. » C'est fort. Hein.
C'est très fort, c'est très fort. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire, aussi de manière plus générale, là, elle parle le fait d'être née en France. Moi, j'ai ressenti la même chose avec le fait de sentir l'amour de Dieu, en fait. Quand, quand cet amour-là nous porte, et du coup est une colonne vertébrale aussi pour notre existence, eh bien, immédiatement, il faut quelque part, non pas le rendre, parce qu'on ne peut pas le rendre à Dieu.
Mais ça déborde.
Mais ça déborde, et du coup, on le rend à d'autres, on le passe à d'autres. Ouais. On essaye de... Ce cadeau que l'on a reçu, il faut le transmettre à d'autres personnes. Et ce souci de la justice, cette exigence de la justice... Pour moi, dans ma vie personnelle, ça vient de ça. Ça vient de ce sentiment d'avoir reçu un cadeau inestimable.
Alors, on arrive à la fin de notre entretien. Emmanuel Sebolt, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes donc présidente de l'Église protestante unie de France.
Merci.
Peut-être un petit mot de conclusion pour finir cet entretien. On n'aura pas tout évoqué
non,
de toute façon,
oui,
mais
oui, c'est vrai.
Un mot personnel.
Alors, du coup,
peut-être.
Allez lire la brochure. Mais ce qui me tient à cœur particulièrement, peut-être, c'est cette articulation entre liberté dans la lecture biblique Prise en compte des savoirs, on en a parlé. Liberté et responsabilité, en fait. C'est vraiment les deux mots qui s'articulent dans notre vie d'église. Liberté et responsabilité. Je crois que c'est là-dessus, tout simplement, que je souhaite finir.
Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci.
C'était l'invité d'Actualité protestante avec Emmanuel Sebolt, présidente de l'Église protestante unie de France. Retrouvez l'ouvrage de l'AFPF « Les églises luthériennes et réformées » en PDF sur le site protestant.org ou en faisant une demande par email à communication@protestantpluriel.org.
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, vous écoutez le 103.2, peut-être en DAB+, ou bien sur nos podcasts, sur notre site radioallianceplus.fr. Vous venez d'écouter une interview d'Emmanuel Sebol par Benjamin Bory dans le cadre des émissions Actualité protestante de la Fédération protestante de France. Interview qui était consacrée à la brochure « Les églises luthériennes et réformées » dans le cadre de la collection « Découvrir le protestantisme aujourd'hui ». Et pour terminer notre émission, je voudrais vous présenter le dîner des protestants. Le dîner des protestants se tiendra le 2 décembre 2024 à Paris et c'est une soirée qui vise à lever des fonds en faveur de la Fédération de l'entraide protestante, laquelle soutient plus de 370 associations solidaires comme le CEL, la Fondation John Boss, l'Armée du Salut. Et c'est un événement 100% solidaire autour du thème de la fraternité qui a lieu donc le 2 décembre à Paris. Le dîner des protestants n'est pas réservé qu'à une élite. Bien sûr, il a lieu à Paris, mais vous êtes tous invités. Car c'est important d'être dans ce dîner pour témoigner que des protestants exercent à différents niveaux des responsabilités dans la vie économique, sociale, culturelle de la France, parfois en toute discrétion sur leur famille spirituelle, mais en y apportant une singularité par leur fidélité à des valeurs humaines fortes et à l'éthique d'engagement du protestantisme. Le thème de cette 4e édition du Dîner des protestants, c'est donc l'engagement des protestants pour une société plus fraternelle. Et elle mettra en valeur ces protestants qui, par leurs actes, font vivre au quotidien cette fraternité inscrite au fronton de la République. Je vous invite donc, si vous êtes intéressé, à aller à cette soirée philanthropique annuelle qui rassemble la grande diversité du protestantisme en présence des autorités de l'État, qui se tiendra donc le lundi 2 décembre 2024 à la Maison de la Mutualité dans le 5e arrondissement à Paris. Et pour terminer, je vous invite à écouter le spot de diffusion au sujet de ce dîner des protestants. Et nous nous retrouvons juste après pour nous dire au revoir. Bonne écoute.
Envie d'agir pour un monde plus fraternel ? Participez au Dîner des protestants le 2 décembre à Paris. Cette soirée caritative exceptionnelle soutiendra les actions d'associations protestantes de solidarité. Réservez vite votre place sur protestantaupluriel.org pour rejoindre la grande famille protestante autour du thème de la fraternité. Le Dîner des protestants 2024 est organisé par la Fédération protestante de France et le Cercle Charles Gide.
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, sur le 103.2, vous venez d'écouter un spot de diffusion concernant le dîner des protestants, invitation pour le 2 décembre à Paris. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à vous souhaiter une bonne semaine, à vous dire à la semaine prochaine.